Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue dans I Feel Good. 30 minutes pour profiter des ondes positives d'un invité, ce qui lui donne l'envie d'agir, ce qui lui a donné l'envie d'agir, ce qui continue de lui donner l'envie d'agir. On a eu une séquence pas mal autour de l'économie et là on va être plutôt sur le care, on a eu du soin et là on va s'intéresser à ceux qui sont aux côtés des personnes handicapées. Madame, mesdemoiselles, messieurs, c'est Alexandre Oracle, le directeur général de l'AEIM, qui est mon invité, qui est notre invité.
So good, so good, I got you.
Bonjour Alexandre.
Bonjour et merci pour cette invitation.
C'est avec joie. On va prendre le temps d'aller à la rencontre d'un établissement que les vrais Meurthe-et-Mosellans connaissent peut-être par le syndrome de la brioche. C'est-à-dire que je me souviens enfant, on avait les brioches qui n'étaient pas toujours... Et puis les brioches ont pris de la qualité. Elles existent toujours ces brioches?
Oh oui, les brioches existent toujours. Ce sont les brioches de l'amitié. D'ailleurs, l'AUIM est une vieille dame de Meurthe-et-Moselle, puisque l'AUIM nous ramène à la volonté d'un certain nombre de parents qu'on appelle des pionniers. Ils étaient une petite poignée à l'époque et en 1957, ils ont créé une association sous l'égide d'un président qui était visionnaire. Ils ont structuré cette association à l'échelle du département. Au départ, c'est une association qui accompagnait un certain nombre de parents confrontés à la parentalité d'enfants en situation de handicap intellectuel. Aujourd'hui, c'est le premier interlocuteur du département et de l'État sur le champ de la déficience intellectuelle, la déficience mentale et tout ce qui est rattaché, donc les troubles neurodéveloppementaux notamment. Donc cette association accompagne un petit peu plus de 3000 personnes en situation de handicap au quotidien et recrute un petit peu plus de 1500 salariés sur 100 métiers différents. Et l'opération Brioche reste l'opération de solidarité emblématique sur notre territoire. Elle aura lieu cette année au mois d'avril.
Alors justement, je reviens sur la brioche. C'est vrai, mais le symbole de la qualité, c'est vrai qu'elle était vite un peu sèche et tout ça. Voilà. Mais en même temps, on ne se posait pas de questions. On la mangeait parce qu'elle portait un nom, la brioche de l'amitié. Oui. Parce qu'elle était un symbole de lien, de connexion avec un monde qu'on connaissait pas forcément, le monde du handicap mental, voilà. Et puis la brioche s'est mise aussi à progresser, elle est vraiment onctueuse et savoureuse. Alors... on voit qu'il y a une démarche aussi, une démarche de qualité, il y a une démarche de prise en compte de tous. Est-ce que c'est aussi un peu l'évolution de l'AEIM aussi, ça, qui prend soin, qui prend de plus en plus soin, qui a plus de moyens aussi pour prendre soin? Est-ce que c'est une réalité, ça?
Alors, très certainement. Et vous avez raison, l'AEIM soigne aujourd'hui sa présentation, mais d'une façon générale, soigne la qualité de ses services.
Parce qu'elle soigne d'une façon, son travail.
La vocation, le mandat qui nous est confié, puisque l'association bénéficie de fonds publics pour pouvoir œuvrer auprès des personnes en situation de handicap, c'est l'amélioration des conditions de vie, c'est l'affirmation des droits des personnes en situation de handicap intellectuel et le soutien à leur famille. Donc la question de la représentation sociale du handicap est au cœur de nos préoccupations. C'est une priorité absolue. C'est d'ailleurs le fil conducteur de la totalité des actions des personnes œuvrant sur ce champ. La brioche de l'amitié, c'est donc la marque de la solidarité. C'est une brioche qui est échangée contre un don. Hein. C'est pas une brioche qui est vendue. C'est une brioche qui est échangée contre un don. Cette opération de solidarité est née à l'AEIM, c'est l'initiative des pionniers et ça a été repris par l'UNAPI, donc l'Union Nationale des Associations de Parents, pour en faire une opération emblématique sur l'ensemble des territoires, sur l'ensemble des départements en France. Nous avons la volonté depuis toujours de l'améliorer. La question de la qualité du produit est évidemment une des composantes importantes de la démarche. Nous Nous travaillons avec énormément d'ailleurs d'artisans sur nos différents territoires, parce que bien entendu il y a en partie de la brioche dite industrielle, mais là aussi nous œuvrons pour que la qualité soit au rendez-vous, mais il y a surtout l'ensemble des artisans qui nous accompagnent dans cette démarche depuis toujours et qui sont nombreux et qui fournissent là aussi le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir accompagner la démarche.
Depuis, donc la brioche de l'amitié, du coup, on terminera là-dessus, mais elle est originaire de Meurthe-et-Moselle.
Elle est originaire de Meurthe-et-Moselle.
Ah, on l'oublie peut-être un petit peu. Alors justement, vous évoquiez la représentation sociale à travers l'exemple que vous donnez de travailler avec des artisans. Quel parcours a suivi la représentation sociale du handicap mental dans notre société, sur notre territoire? Allez.
Alors, la question du handicap intellectuel, la question du handicap mental nous rapproche et nous ramène à des mots qui aujourd'hui résonnent encore si nous n'y prenons garde. Il suffit de regarder autour de nous pour voir que dès que nous tournons la tête, en fait, il y a des choses anciennes qui ressurgissent. Il faut se resituer sur l'après-guerre, donc on est entre 45 et 50. Et à cette époque, nous sommes encore dans le traumatisme du nazisme, donc qui considérait que les personnes en situation de handicap intellectuel, handicap mental, faisaient partie de l'Undermensch, c'est-à-dire de la sous-humanité. Donc deux sentiments extrêmement violents chez les parents concernés, notamment chez les mères, le sentiment de honte et le sentiment de peur. Donc la peur et la honte entraînent un mécanisme de défense, on cache l'enfant. Et en France, au début des années 50, il y a un certain nombre de parents concernés qui vont se réunir et se mobiliser pour essayer de faire changer les choses. Alors, une des singularités de la déficience intellectuelle, de la déficience mentale, c'est qu'elle touche toutes les catégories. Elle n'est pas la résultante d'une seule partie de la population. Elle touche des cadres, des non-cadres, des ouvriers, des médecins. Il y a des raisons génétiques, par maladie, par accident, enfin bref. Nous pouvons nous retrouver en situation de handicap intellectuel ou de handicap mental. Ses parents se réunissent. Il profite aussi de ce que l'après-guerre a de meilleur. Il y a l'envie de reconstruire, de renaître, de refaire une société qui a du sens et ma foi, de vivre des vies qui soient sereines et heureuses. Ils mettent au pot chacun pour acheter les premiers bâtiments, les premières bâtisses.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aide de l'État
Au départ, non. Au départ, non. Et puis,
les parents se débrouillent, entre guillemets, avec leurs enfants.
Ils se débrouillent et en fait, ils vont structurer tout un pan des politiques sociales. Ils vont structurer ce qu'aujourd'hui nous retrouvons dans le Code de l'action sociale et des familles. Et ils vont mettre en place ce qu'on appelle les fondations de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire aussi. Alors, ils vont le faire par...
Mais avant, on avait comme des institutions type plutôt religieuses qui accompagnaient sur le champ du handicap mental, moins.
Alors, il y a quelques institutions, mais pour les problématiques les plus sensibles, soit il n'y a pas de réponse, soit ce sont des réponses offertes par les structures psychiatriques, mais pour les problématiques les plus aiguës, les conditions d'accompagnement, je ne pourrais même pas parler d'accompagnement, les conditions de prise en charge ne correspondent absolument plus aux critères qui sont les nôtres aujourd'hui, vous vous en doutez. Mm-hmm. Les parents vont se battre, pour créer les premiers lieux d'accompagnement, les premiers lieux d'éducation, mais vont se battre aussi pour le remboursement des soins. Il faut savoir qu'à l'époque, l'enfant, il n'est pas scolarisable puisqu'on considère qu'il n'est pas éducable. Et puis, il n'est pas pris en compte par la sécurité sociale, puisque la déficience intellectuelle n'est pas guérissable. Et ceci va changer. Et d'ailleurs, pour parler de l'ensemble de ces progrès, si on doit regarder frontalement les conditions d'accompagnement des personnes en 1950 et celles que notre société offre aujourd'hui, nous pouvons quand même regarder avec une certaine fierté ce que notre société a pu franchir comme cap. J'irais même plus loin. Si on arrivait à faire autant de progrès dans les 80 prochaines années que ce que nous avons réalisé les 80 dernières, ça serait absolument incroyable. Bon, après, c'est pas à pas. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, notre société est sur le bon chemin. Je le crois résolument. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue à m'impliquer et à militer. Nous en sommes à un moment de l'histoire du handicap où certains mots résonnent. La dynamique inclusive, avec ses difficultés, mais aussi avec ses réussites. Mais le débat est posé. Il ne se posait pas d'une façon aussi forte, aussi tranchée, aussi frontale, il y a encore 10 à 15 ans. Aujourd'hui, nous y sommes. Donc la confrontation des différentes parties de notre société se fait très souvent d'une façon heureuse. En tous les cas, elle ne se fait pas d'une façon simple. Ça, nous pouvons en discuter. Et que ça soit dans l'accessibilité à l'éducation, à la scolarisation, au logement, au loisir, au sport, à la culture, évidemment au travail, au logement, enfin bref, etc.
Alors tout ça n'est pas gagné, mais tous ces dossiers-là sont ouverts maintenant.
Ces dossiers-là sont ouverts. L'espérance de vie d'une personne en situation de handicap intellectuel présentant une problématique sévère jusque dans les années 70, elle ne dépassait pas 30 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie des personnes en situation de handicap intellectuel et celles qui ne le sont pas commence à se rapprocher d'une façon parfaite, ce qui montre l'amélioration des conditions de vie offertes aux personnes en situation de handicap. Alors c'est un effort constant. Dès qu'on tourne le regard, les choses s'en vont. Mais notre boulot à nous, c'est de faire en sorte que ces conditions de vie continuent à progresser au bénéfice des personnes elles-mêmes et évidemment au bénéfice des familles.
Alors on prend le temps un petit peu de savourer les 50, 60, 70, 80 années là qui viennent de passer pour dire quel pas de géant nous avons construit,
oui,
en humanité, en fraternité. Ça devrait être les brioches de la fraternité presque. C'est indéniable. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu aujourd'hui, où est-ce qu'on a peut-être à ajuster, où est-ce qu'on a peut-être à travailler pour qu'on continue dans la même dynamique?
Aujourd'hui, la question alors de ce qu'on pourrait appeler des minorités continue à se poser d'une façon récurrente et transversale. La question que nous devons nous poser, c'est pas tellement comment procéder à la mise en place rapide d'une société inclusive. Les questions que nous nous posons aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'une bonne vie pour une personne en situation de handicap intellectuel ? Si on devait se la poser pour nous, c'est quoi pour nous ? Ça serait quoi pour nous une bonne vie ? Une vie bonne ? A priori, ce n'est pas une réponse institutionnelle que nous devons poser d'une façon générale. Alors, quand je veux parler de la réponse institutionnelle, c'est les personnes en situation de handicap intellectuel ont besoin d'une place dans des environnements spécialisés lorsque leur niveau de vulnérabilité l'exige, le nécessite. Je ne reviens pas là-dessus. Et il manque encore des places en France dans des environnements dits institutionnalisés et spécialisés pour certaines d'entre elles. Par contre, pour l'ensemble des personnes qui aujourd'hui aspirent à une vie incluse dans un environnement de droit commun, il ne doit pas y avoir de différence de droit. Il ne doit pas y avoir de différence dans l'accès au droit. Et la cohabitation, cette vie heureuse, cette vie bonne, ce vivre ensemble dont on peut parler, n'est pas quelque chose qui ne se prépare pas. On le disait, il y a 80 ans, les personnes en situation de handicap intellectuel, en situation de handicap mental, vivaient plus ou moins cachées. Nous avons construit des frontières, des établissements spécialisés pour les uns et des environnements de droit commun pour les autres. Nous n'avons pas appris ce vivre ensemble et la différence, c'est pas ici d'ailleurs qu'on va le dire puisque vous en faites très souvent l'écho. La différence, elle se combat par la connaissance. La différence et l'acceptation de la différence, ça se construit par la provocation de rencontres utiles, par la compréhension de la problématique de l'autre, par l'acceptation qu'il fait partie d'un même monde, le mien. Hein, il n'y a pas des mondes différents. Hein, il n'y a pas le monde des personnes en situation de handicap et le monde des personnes qui ne le sont pas. Non, il y a un seul environnement. C'est une maison commune. Cette maison commune, c'est la société. De quelle manière mettons-nous en place des éléments relatifs à l'égalité des droits? Ça passe par la pédagogie. Ça passe par la capacité à créer des synergies entre les politiques de la ville et les politiques du handicap. Ça passe aussi par la capacité pour les uns et pour les autres d'accepter la mise en place de l'accessibilité d'une façon globale. L'accessibilité, ce sont par exemple les crèches. Combien de crèches aujourd'hui accompagnent accueil des enfants en situation de handicap intellectuel ou de handicap d'une façon générale. À chaque fois, nous disons « Ah ben non, il faut des environnements spécialisés. » Non, j'en reviens là-dessus. Alors, je pourrais parler des crèches, je pourrais parler du périscolaire, je peux évidemment parler de l'école, je peux parler du travail, je peux parler de l'entreprise, je peux parler du logement, etc.
Oui, Alexandre, mais on est sur tous les exemples que vous donnez, on est sur des métiers où on a du mal à recruter du personnel, on a du mal à que ce soit en crèche, que ce soit en périscolaire. Donc, ce n'est pas spécifique au handicap, la capacité d'accueil. C'est que la capacité d'accueil, en général, elle est difficile.
C'est raison.
Et donc, si, en plus, il faut un accompagnement supplémentaire pour pouvoir bien accueillir, pour garantir le vivre ensemble, ça nécessite un effort supplémentaire.
Vous avez raison. J'écoutais ce matin encore les chiffres sur le secteur de la santé. Par exemple, dans le Grand Est, il manque 9000 professionnels, rien que pour maintenir la machine à flot, 9000 professionnels par an. J'entendais aussi la fuite de nos compétences dans ces domaines-là, sur des territoires limitrophes, le Luxembourg, la Suisse. Effectivement, hein, quand on gagne 6 000 à 6 500 euros pour une infirmière en Suisse, on comprend le choix qui est fait par certains de nos jeunes professionnels. D'accord. Pour autant, la mission qui est la mienne dans le cadre du travail qui m'est confié à l'AIVM, c'est de faire en sorte de faire bouger les lignes et de ne jamais lâcher. Lorsque nous parlons par exemple des crèches ou de l'école, je crois qu'il y a encore des espaces qu'il nous faut investir. Alors, peut-être d'une façon un peu différente de celle qu'on l'a fait jusqu'à présent, mais... dans les pas que nous franchissons depuis 80 ans, il y a eu des mauvais pas, mais nous avons appris de ces mauvais pas. Aujourd'hui, et juste avant cette interview, on était amené à discuter l'un et l'autre et se poser la question de la difficile inclusion dans l'environnement scolaire. Je crois que nous avons beaucoup appris des difficultés que nous avons rencontrées ces dernières années et qu'aujourd'hui, le monde du handicap et le monde de l'éducation nationale sont sur le bon chemin. L'environnement classe n'est pas l'environnement école. Très souvent, on fait une confusion. Quand on dit non, tous les enfants en situation de handicap à l'école, et on veut mettre tous les enfants en situation de handicap dans toutes les classes. Et puis on se rend compte que... Non, il y a des environnements qui ne sont pas prêts, et puis il y a des enfants pour qui c'est préjudiciable, et puis des classes pour qui c'est préjudiciable, et des parents qui eux aussi en connaissent les difficultés, les enseignants pareil. Non. Nous avons appris que l'environnement global de l'école aujourd'hui peut être pensé différemment, parce que nous avons, tout au long de ces dernières années, pris conscience des conditions de réussite d'une école inclusive. Et d'ailleurs, si nous devions parler des mots de l'école aujourd'hui, les enjeux que rencontre aujourd'hui l'environnement école sont incroyablement complexes. La question des décrocheurs, la question des enfants qui se sentent harcelés, la question des enfants qui se sentent perdus, la prédominance des phénomènes de stress, de dépression dans les environnements scolaires.
Le micro est par là, Alexandre. Voilà.
Et dépression dans l'environnement scolaire, sont-ils des enjeux relevant du champ de compétences des enseignants? Ou sont-ils du champ de compétences des professionnels du médico-social?
en tout cas de la société. Des paroles toujours apaisées, qui vont dans le bon sens, toujours mesurées, et pourtant un choix musical pour cette émission qui peut surprendre quand les cons sont braves.
Sans être tout à fait un imbécile fini, je n'ai rien du penseur, du phénix, du génie. Mais je ne suis pas le mauvais bougre, j'ai bon cœur, et ça compense à la rigueur. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent, ils n'emmerdent personne. Par malheur sur terre, les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Si le sieur X était un lampiste ordinaire, il vivrait sans histoire avec ses congénères. Mais hélas, il est chef de parti, l'animal. Quand il débloque, ça fait mal. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. Les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde.
Dites donc, monsieur Rack, on se lâche là, comme ça, c'est pas votre style pourtant d'aller un peu dans la provoque comme ça, dans l'interpellation, c'est pas la provoque, l'interpellation.
Non, l'interpellation, mais...
Ça c'est votre style quand même, un petit peu, avec élégance.
Le débat, je crois, est une des plus belles armes qu'il puisse y avoir.
Pourquoi ce choix musical ?
Ce choix musical, il est en lien avec quelque chose à laquelle je crois profondément. Nous devons prendre conscience de la conséquence de tous nos agissements et de tous nos actes. Je crois aujourd'hui, dans notre environnement, entendre trop souvent des personnes qui énoncent des choses comme étant des vérités sur lesquelles on ne peut pas discuter, sur lesquelles on ne peut pas débattre, sur lesquelles, à la limite, on n'a pas de mots à dire. Alors,
bienvenue à RCN, hein, lieu du débat.
En ce qui concerne notre action dans le champ du handicap intellectuel, il y a quelque chose qui revient très fréquemment, c'est l'humilité. Nous, on n'a pas de, on n'a pas de leçons à donner. On a juste compris un certain nombre de choses. Alors, il faut faire de la pédagogie. Il faut revenir sur des fondamentaux d'une façon permanente. En tous les cas, c'est la volonté de ne jamais mal agir. Et je crois que là se trouvent les fondamentaux de l'éthique. L'éthique, c'est la réflexion sur le bien agir.
Et ça se partage.
Et ça se discute et ça se débat.
Vivement le retour d'Handicap 360. C'est une belle émission qu'on avait eue en partenariat avec l'État. Enfin, ça nous avait permis de réunir des parents, des professionnels, des personnes handicapées. C'était extraordinaire. C'était un vrai lieu de débat, d'accroche parfois. Hein. C'était, je me souviens d'une émission, mais qu'est-ce que c'était bien. Comment on tombe dans ce milieu-là, Alexandre ? Qu'est-ce qui vous a fait choisir le handicap ?
Alors,
un enfant, une famille, une histoire personnelle ?
Alors, très certainement, une partie de mon histoire personnelle quand j'avais 15 ans, mais je me permettrai de garder cette intimité. Parce qu'elle m'appartient, et puis parce que...
C'est chouette.
Puis parce qu'elle est celle de ma famille. Mais au départ, le choix... d'être dans la pédagogie. Je passe mon bac sur Vendeuvre, hein, puisque j'ai fait mon lycée à Callot. Mais je voulais être instituteur à l'époque. Et puis, l'école normale s'arrête et c'est les IUFM qui reprennent. Et dans le cadre des échanges que je peux avoir avec nombreuses personnes de ma famille qui sont dans l'enseignement, je me rends compte que très certainement j'aurai une liberté d'action et une liberté d'entreprendre plus marquée dans le champ de l'éducation spécialisée, ce qu'on appelle le travail social. Donc je fais l'IRTS. Et après l'IRTS, je fais mon service militaire, parce qu'à l'époque c'était ça. J'y retrouve une mixité sociale à cet endroit que je trouve extraordinairement enrichissante. Et je discute, je vis pendant 10 mois avec un certain nombre de personnes, dont certaines sont restées mes amies, que j'aurais jamais croisées si jamais j'avais pas eu cette expérience. Peu importe. Quand je sors, je prends mes fonctions d'éducateur spécialisé en maison d'enfants à caractère social, donc auprès d'adolescents et de jeunes majeurs.
1er septembre 94, première date importante.
1er septembre 94, c'est tout à fait ça. À l'OHS, j'y resterai 6 ans. Ça a été une expérience extraordinaire. J'ai rencontré des collègues qui sont encore mes amis. Et des jeunes qui étaient dans des difficultés de vie intenses. J'ai gardé des liens avec certains d'entre eux. Ils sont aujourd'hui entrepreneurs, ils sont artisans, ils sont ouvriers. Comme quoi, voilà, eux aussi ont su traverser des phases compliquées. Et puis, le 1er décembre 2000, je réponds à... Enfin, je lis un article dans l'Est républicain, une petite annonce pour un poste de chef de service sur la maison d'accueil spécialisée Lucien Gillet, qui s'appelle aujourd'hui la résidence Lucien Gillet de l'association AUIM. Ça a été pour moi une rencontre qui me laisse encore un souvenir intense. C'est ma première rencontre avec des personnes en situation de polyhandicap. Alors, le polyhandicap, c'est l'extrême dépendance, c'est une remise de soi. Au départ, je me demande comment
c'est dur quand même.
Vous y retrouvez des personnes qui parfois ne s'expriment pas ni par oui, ni par non. Il faut pouvoir être en description d'un geste, d'un soupir, d'une respiration. Mais vous apprenez des parents. Les parents, très souvent, vous donnent les codes pour pouvoir entrer en relation. Et puis sinon, l'équipe vous donne les codes pour entrer en relation parce que c'est à force d'heures passées qu'on apprend à connaître la personne et qu'on apprend à prendre conscience de son incroyable humanité. Le polyhandicap, c'est véritablement l'école de l'humilité, mais c'est un vrai travail d'expertise. Et l'équipe m'a appris mon boulot à ce moment-là.
Deuxième date importante dans votre vie, le 1er janvier 2012, une prise de fonction, j'allais dire, c'est la continuité.
Et le 1er janvier 2012, c'est mon premier jour en tant que directeur général à l'AUIM.
On a bien compris le chemin, le parcours.
Voilà. Et c'est aussi la prise de conscience d'une responsabilité à une autre échelle. C'est la responsabilité dans la continuité d'une action, celle impulsée par les pionniers dont on a parlé tout à l'heure. C'est la responsabilité du parcours professionnel de 1500 et collègues, avec des collègues qui s'impliquent d'une façon intense, mais d'une façon remarquable. Et puis l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire les parents et les personnes en situation de handicap.
Et vous avez essayé de me la jouer à l'envers quand je vous avais demandé 3 dates importantes dans votre vie. Il se trouve qu'il y a 3 enfants, donc on m'avait donné 3 dates de naissance. 28 mars 96, 19 février 98, 18 mars 2006. Pourtant, vous m'aviez dit, sur ces 3 dates de naissance, il y a eu 3 étapes personnelles. Alors, en une minute, c'est quoi les 3 étapes ?
Il y a 3 étapes personnelles. Le premier, donc mon fils Nicolas, que j'ai avec mon épouse Nathalie, auprès de laquelle je vis, et qui m'apporte énormément de choses. Ce premier fils, j'apprends à être parent, et puis ma fille, Mathilde, qui arrive le 19 février 98. Je me sens déjà un petit peu plus sûr de moi. Et puis notre troisième enfant, Louis, qui arrive en mars 2006. Voilà, et là, oui, je crois que je me sens prêt, et je sais plus être parent. Puis finalement, c'est serein et aujourd'hui, je suis très fier d'eux.
Qu'est-ce que Alexandre Rac a comme énergie qu'il a envie de transmettre aux familles, aux parents ?
Je crois qu'il y a une chose sur laquelle il ne faut pas lâcher, c'est la militance. La capacité que nous offre notre société à s'associer, à œuvrer d'une façon désintéressée pour des causes qui font bouger les lignes, sont des éléments que nous ne devons jamais lâcher. Et la solitude d'un parent, il peut trouver des éléments de compensation dans l'association.
Merci Alexandre d'avoir pris le temps de s'arrêter pour nous partager cette foi et ce parcours. C'est justement aussi l'occasion pour moi et le lien de rendre hommage et de dédier cette émission à Madame Étienne et à Monsieur Étienne.